Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Réveil sans électricité ce matin pour 380 000 foyers. Conséquence de la tempête Goretti qui a fait 6 blessés cette nuit et des dégâts dans la Manche, où on sera en direct dans un instant sur RMC. La signature du traité du Mercosur attendue ce vendredi à Bruxelles. La France répète qu'elle n'en veut pas de ce texte. Mais vous verrez, on va vous l'expliquer, que la position française n'a plus vraiment de poids. Et puis la Suisse qui va rendre un hommage national aujourd'hui aux victimes du drame de la nuit du Nouvel An. RMC y est en direct.
380 000 foyers sont sans électricité ce matin.
Oui, surtout en Bretagne et en Normandie. C'est donc la conséquence de cette tempête Goretti qui balaye depuis hier soir le quart nord-ouest du pays avec une rafale à 213 km/h enregistrée durant la nuit à Barfleur, ville de la Manche, où ça a soufflé le plus fort. Et où vous êtes en direct ce matin pour RMC, Martin Lange. Vous êtes précisément dans la ville de Cherbourg et vous avez rencontré ce matin des sinistrés.
Oui, Quentin, ils sont une vingtaine à avoir passé la nuit dans ce gymnase sur les hauteurs de Cherbourg, pris en charge par la sécurité civile. Parmi eux, Jean-Luc, une partie de son toit s'est envolée cette nuit.
Une rafale qui a décollé mon toit. Donc une partie du toit est partie vers 22h30. Et la deuxième partie est partie à 23h30, quelque chose comme ça. Donc il me manque moitié du toit quand je suis parti. Donc là, j'allais voir s'il en reste.
Vous avez peur de ne pas pouvoir rentrer chez vous?
Si, mais voir dans quel état on va retrouver. Et puis s'il pleut, maintenant, il n'y a plus de toit, donc...
D'autres sinistrés refusent de parler, forcément touchés par la nuit qu'ils viennent de passer. Mais si deux personnes ont été hospitalisées en urgence relative, les dégâts restent matériels ce matin. Des arbres, des poubelles, des poteaux électriques jonchent toujours les sols et les routes. La RN13, la route nationale principale du département, est d'ailleurs bloquée à la sortie de Cherbourg, créant quelques désagréments pour les automobilistes. Mais les pompiers sont à pied d'œuvre. Ils sont intervenus 213 fois cette nuit dans le département.
Voilà, 2 blessés dans ce département de la Manche, 6 blessés sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est le décompte fait à l'instant par le ministère de l'Intérieur. Des vagues à 13 mètres mesurées en Bretagne. Énormément de routes coupées par les chutes de branches d'arbres ce matin. Pareil pour les lignes de train, aucun TER jusqu'à 14h en Normandie. Ou de RER, là je parle pour la région parisienne, avec des soucis notamment sur les lignes A et C. Les agriculteurs continue de se mobiliser ce matin avec une action en ce moment même à l'est du périphérique parisien. Une autre action toujours près de Bordeaux, le dépôt de Bassins, ce qui est bloqué depuis mercredi soir. Il y en a également aux frontières belges. Pourquoi ils se mobilisent? Eh bien, c'est notamment contre la signature du traité du Mercosur à Bruxelles. Cette signature est attendue aujourd'hui. Alors, vous savez que la France y est opposée. Emmanuel Macron l'a répété encore hier soir. Mais Romain Houck, pour RMC, vous allez tout nous expliquer. En fait, au nombre de voix, l'opposition de la France ne changera rien. Et on va donc tout droit vers une signature du texte.
Mais oui, car même si la Hongrie, la Pologne et l'Irlande ont également annoncé voter contre cet accord, eh bien, ça ne suffit pas à atteindre ce qu'on appelle une minorité de blocage qui aurait pu permettre d'empêcher l'adoption de l'accord. En fait, l'état pivot dans ce vote, c'est l'Italie qui, ces dernières semaines, a soufflé le chaud et le froid. Ils se sont d'abord positionnés contre, ce qui a permis de reporter ce vote à aujourd'hui. Mais finalement, c'est bien un vote pour qui semble se dessiner, comme la majorité des pays européens. Et donc, on s'achemine vers l'adoption du texte. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ira signer lundi prochain au Paraguay.
Bon, alors ce qu'il faut savoir aussi ce matin, Romain, c'est que même si le texte est voté aujourd'hui à Bruxelles, ce ne sera pas définitif.
Oui, il peut encore être retoqué par le Parlement européen dans les prochaines semaines. Le texte va sans doute faire l'objet d'intenses tractations entre les députés à Strasbourg et ça pourrait au final se jouer à quelques voix près. Enfin, le dernier espoir pour les détracteurs du Mercosur, ce serait que les députés européens votent à la majorité la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Le vote pourrait avoir lieu dans une dizaine de jours. L'accord pourrait alors être suspendu plusieurs mois, le temps que la justice se prononce.
Et il y a déjà des appels à manifester le 20 janvier prochain devant le Parlement européen de Strasbourg.
Et puis tiens, on parlait d'Emmanuel Macron, le président, il sera en Suisse aujourd'hui pour l'hommage aux victimes du drame de Crans-Montana.
Les 40 morts, et dont 9 Français, la nuit du Nouvel An, une cérémonie est prévue cet après-midi dans la ville de Martigny. Alfred Orange, vous êtes l'envoyé spécial de RMC en direct de Suisse ce matin, c'est une journée de deuil national qui commence.
Oui, et premier élément visible de cette journée de deuil, les drapeaux sont en berne ici à Lausanne comme partout ailleurs. Le pays se recueillera tout à l'heure à 14h autour d'une minute de silence accompagnée par les cloches des églises qui sonneront pendant 5 minutes. La cérémonie officielle avec les victimes et les délégations étrangères ne se tiendra pas à Crans-Montana à cause de la neige. Les habitants de la station pourront quand même suivre sur écran géant l'hommage qui se déroulera plus bas dans la vallée, dans la commune de Martigny. Un moment de communion qui sera prolongé dans la soirée à Genève et à Fribourg par des messes et des veillées.
En direct de Suisse pour RMC. Et en ce moment même est censé commencer à Sion l'audition des deux gérants français du Constellation, le bar où a eu lieu le drame. Première fois qu'ils sont entendus séparément hein, par trois juges du ministère public suisse. Je vous signale que c'est cet après-midi, à 14h, que doit être jugé à Montauban l'agriculteur à la retraite de 74 ans qui, souvenez-vous, avait écrasé un œuf sur la tête de Jordan Bardella. C'était lors d'une séance de dédicace à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, en novembre dernier.
Et puis, on est à moins d'un mois des Jeux Olympiques d'hiver et un scandale qu'on n'avait pas forcément vu venir agite depuis le début de la semaine le monde du ski.
Oui, c'est la presse allemande qui a révélé une possible affaire de tricherie dans le saut à ski, épreuve qui consiste à sauter le plus loin possible en prenant son envol depuis un tremplin. Alors, la tricherie, je vous jure que c'est pas une blague, ce serait de se faire agrandir le pénis pour voler plus loin, Clément Brossard.
Oui, quand Pierre Mignoret, le directeur technique national de la Fédération française de ski, a eu vent de ces rumeurs, il n'y a pas cru.
Pour nous, c'est de la science-fiction. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que si ça avait été avéré, il y aurait eu des sanctions qui auraient été prises. C'est pour ça que nous, on a beaucoup de mal à croire à ce qui a été dit jusqu'à maintenant.
Surprise également pour le docteur Benjamin Ngo, chirurgien, pratiquant des méthodes d'agrandissement pénien.
L'augmentation de la taille de la verge, c'est une demande de plus en plus fréquente chez les hommes. De l'applicabilité dans le milieu du sport, ouais, c'est la première fois. Il faut savoir que quand on fait une pénoplastie, on va gagner entre 2 et 4 cm de circonférence en plus. Que ça change vraiment la portabilité quand on fait ce sport.
Et pourtant, c'est le cas, selon l'entraîneur de l'équipe de France, Nicolas Dessoum.
C'est une énorme différence. Un centimètre dans cette zone-là, ça change la coupe de la combinaison un petit peu, ça change un petit peu le centre de gravité, sa façon de voler et tout. Et ça peut aller, oui, jusqu'à gagner 1 ou 2 mètres sur un saut, quoi. Donc, c'est vraiment pas négligeable.
La Fédération internationale abordera le sujet aujourd'hui auprès des différentes nations afin de leur expliquer s'il s'agit d'éléments infondés ou si cette étonnante triche a vraiment été observée.
Ce sujet est inouï.
Un centimètre, ça change tout, vous avez bien entendu. La déception ce matin à Marseille. Que c'est dur, titre le journal La Provence au lendemain de la victoire de Paris au Trophée des Champions. Les Marseillais menaient 2-1 jusqu'en fin de match, mais les Parisiens ont égalisé au bout du temps additionnel et se sont imposés au tir au but. Je vous donne les deux rendez-vous du jour en sport. Il y aura les deux premiers quarts de finale à la CAN en foot. Mali-Sénégal, 17h, Cameroun-Maroc, ça ce sera à 20h, on vivra ça sur RMC Radio officielle. Et la troisième journée de Champions Cup de rugby qui va commencer à 21h avec le match entre Castres et les Anglais de Basse.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC. C'est l'heure de l'économie, Emmanuel Le Chypre.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous.
Emmanuel, 2026 sera une année record pour l'assurance vie.
Oui, et la dynamique des derniers mois est déjà extrêmement favorable. Les dépôts sur les contrats d'assurance vie ont établi un nouveau record pour un mois de novembre. Presque 16 milliards d'euros de déposés. Et si on mesure la collecte nette, c'est-à-dire l'écart entre l'épargne déposée sur l'assurance vie et les retraits, eh bien on est à presque 5 milliards de collecte nette. C'est quasiment au niveau du record historique de 2006. Et donc, l'assurance vie renforce sa place de premier placement financier des Français. C'est plus de 2100 milliards d'euros qui sont sur nos petits comptes d'assurance vie.
Mais pourquoi? Pourquoi cet engouement?
Alors, parce que d'abord, la priorité des Français, plus que jamais aujourd'hui, c'est les bas de laine. Et que le grand match pour l'épargne populaire entre les livrets réglementés, donc le livret A notamment, et l'assurance vie est clairement en train de tourner en faveur de cette dernière. Le taux de rémunération du livret A, rappelez-vous, il était passé au 1er août de 2,4 à 1,7% et il va passer à 1,4 sans doute en février, alors que l'assurance vie rapportera au moins autant, voire un peu plus en 2006 qu'en 2025, autour de 2,5%, ce qui reste avantageux, même si le livret A n'est pas fiscalisé.
Alors les Français, ils ont accumulé donc une épargne record, elle sert à quoi?
Eh ben, on en sait un peu plus. Là, on s'intéresse à l'épargne financière, pas à l'immobilier. Donc, ça représente quand même 6 600 milliards. Alors, on sait où on a déposé cet argent. Un tiers est sur nos comptes bancaires ou sur nos livrets réglementés. Un tiers est investi en actions. Un tiers est investi en assurance vie et en fonds de pension. Mais qu'est-ce que les compagnies d'assurance et qu'est-ce que les banquiers font vraiment de notre argent? Eh bien, grâce à cette étude publiée hier par France Trésor, on le sait plus précisément, sur 10 euros de patrimoine financier, il y en a 4 qui servent à renforcer les fonds propres des entreprises, il y en a 2 qui servent à financer la dette des entreprises, il y en a 1 qui sert à financer la dette de l'État et 2 euros qui sont recyclés par les banques pour accorder des prêts aux ménages et aux entreprises.
Merci Emmanuel.
Notre argent travaille.
Notre argent travaille quand on dort, il est 8h10.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Et dans un instant, c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint. Notez également qu'à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Elle a été huée, chahutée par les agriculteurs devant l'Assemblée hier, on y revient. Et puis, juste après, on retrouvera la semaine face à Canteloup, comme tous les jours. Le rendez-vous avec Nicolas Canteloup, c'est à 8h50 sur RMC. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h13. Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour à tous. Est-ce Bonjour. Que tout le monde va bien?
Bah oui.
Personne n'a eu de problème avec la tempête. On discutait avec Manu Le Chypre juste avant nos chroniques dans les couloirs. Il est ravi, lui, parce qu'avec la tempête Goretti qui a soufflé toute la nuit depuis la Bretagne, ce matin, il avait plein de mottes de beurre demi-sel dans son jardin. Il était là. C'est bien pas meilleur mieux. Moi, si je sors, là, je m'envole jusqu'en Allemagne. J'ai pas besoin de me faire agrandir le pénis pour voler loin. Hein. Je vous ai entendu avec votre truc de sauteur à ski qui se font agrandir le sgeg pour voler plus loin. Non, mais c'est vrai.
C'est vrai.
Alors, tant qu'on est dans le festif, est-ce que vous allez tirer les rois ce week-end? Ça fait une semaine que tous les enfants sont en mode. Alors, nous, on l'a fait ici. Il y a eu une galette à RMC. Il y en a aussi une organisée chez Vincent Bolloré. Ça a mal tourné. Ça a fini en baston général parce que tout le monde voulait avoir le droit d'être celui qui irait sous la table du patron. C'est une tradition issue du christianisme. Voilà. C'est pour ça que le plus jeune passe sous la table. C'est comme au catéchisme. Allez, l'actu. Je vous emmène au procès pour narcoterrorisme de Nicolas Maduro. L'ex-président vénézuélien plaide non coupable. Il a déclaré: je suis innocent. Je suis un homme honnête. Je suis toujours président de mon pays. Quelle indignité, monsieur Pujadas. J'irai en prison la tête haute. Oui, il a tout révisé de Nicolas Sarkozy.
Il le connaît dans le texte. Hein.
Oui, il s'est dit, il passe sa vie chez les juges, il a pris que 20 jours. Il n'y a qu'à copier, après c'est Morito. Nicolas Maduro est aussi tombé. Parce qu'il a toute la panoplie du dictateur sud-américain et les Américains n'aiment pas ça. Mais vous voyez, il a la corruption, les vestes Mao, la moustache. Les Américains ont toujours détesté les moustachus. Pablo Escobar, Staline, Saddam Hussein, même Monique Barbu, en vrai, ça passe pas. Elle fait tous les trucs que Trump déteste, Monique Barbu. Être une femme, de faire de l'écologie. Elle va se réveiller à Guantanamo pour la protéger. Il faudrait qu'on la nomme, nous, ministre d'un truc que Trump aime bien. Oui, ministre des seins en silicone, secrétaire d'État au golf ou au cheeseburger. Quelque chose de stable. C'est à vous, pardon, Apolline. Mais je peux le faire moi-même.
Selon la presse américaine, les vidéos.
Ouais.
Provocatrice de Nicolas Maduro, qui le montre faire des petites danses où il nargue Trump, aurait provoqué la colère du président américain et donc son enlèvement, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Pardon, excusez-moi. On se distribue un peu en chantier.
Tout à fait.
Mais Maduro se moquait de Trump en dansant et en faisant du narcotrafic. Là, sais-tu danser la carioca? Sais-tu la fine et la coca?
Je peux le faire, si vous voulez.
Ah oui, on danse. On peut se faire une petite carioca.
Tout à fait, on peut s'entendre.
Donc, résultat, prison. Là, ça va changer de refrain. C'est la danse des tolards sous la douche, c'est pas le panard. On se pétait le badère hein, en faisant ouin ouin.
Ça valait la peine.
Trump a la Colombie et Cuba dans le viseur, donc ils ont fermé toutes les écoles de Zumba là-bas. Raul Castro, avant qu'il se tape une Macarena, il va réfléchir. Et dans la presse, Macarena c'est sympa, et dans la presse, on nous annonce le retour de la doctrine Monroe.
Oui.
Alors ce truc, ça ne veut pas dire que Trump va s'habiller avec une robe blanche, passer sous une bouche d'aération et chanter « Poupoupidou ». Oh, I love the poo-poo-pee-doo, great poo-poo-pee-doo. C'est pas ça la doctrine Monroe, c'est une doctrine qui consiste pour les USA à considérer l'Amérique du Sud comme leur zone d'influence, comme il y a eu la France-Afrique. Sauf que nous, on n'enlevait pas des dictateurs pour avoir le pétrole, on en mettait en place.
Voilà.
Rien à voir, c'est très différent.
Vous vouliez finir la semaine avec un mot de culture.
Oui, absolument, Abolinga.
Il y a 130 ans, jour pour jour, les Frères Lumière présentaient leur premier film, L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. C'est un petit événement de cinéma. Vous savez ce que ça racontait ?
L'arrivée d'un train
en gare de La Ciotat. Vous l'avez vu aussi alors ? Après, ils ont fait la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Oui. Je ne veux pas vous spoiler. Ça raconte la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Et c'est l'occasion d'un petit quiz. Je vais vous donner des titres de films comme les auraient fait les Frères Lumière.
Ah oui.
À vous de deviner le vrai film. Attention, c'est parti.
On est prêts.
L'enfant médium qui voit des morts avec Bruce Willis.
Sixième sens.
Bien.
Bravo.
Un vieux monsieur antisémite se lie d'amitié avec un arabe accusé de terrorisme.
Rabbi Jacob.
Oui. Alors j'aurais aussi accepté les films de Valence.
Je trouve que je l'ai revu très très récemment.
J'aurais aussi accepté les films de vacances avec Jean-Luc Mélenchon. Un groupe de potes millionnaires prend quelques millions en plus à une prod en faisant un film à chier. C'est les Bronzés 3, c'était pas facile. Un bébé qui n'est pas laissé dans un coin.
Dirty Dancing.
Un bébé qui est laissé dans un coin.
Trois hommes et un couffin.
Bravo.
Yes.
Le fantôme qui fait de la poterie avec sa femme.
Ghost.
Ouais, oui, ghost.
Un grand blond avec une chaussure noire dans une histoire d'agent secret.
Bah non, je sais plus du coup.
C'est le grand blond avec une chaussure noire. Il y avait un piège, mais j'aurais pris James Bond aussi. Un OQTF qui rentre dans son pays en vélo et qui vole.
Iti.
Et enfin, des hommes venus du Moyen-Âge qui ont peur des Sarrasins.
Les visiteurs.
J'aurais aussi accepté CNews et Europe 1. Bon week-end et à lundi.
Arnaud, qu'on retrouve tous les jours en direct sur RMC, à tout moment en podcast et en tournée partout en France avec un nouveau spectacle. Vous êtes à Rouen, à Toulon, à Hyères, à Versailles, à Montpellier et encore dans d'autres villes de France. C'est un spectacle RMC. 8h19, Mathieu, de nombreux messagers, notamment aussi sur le passage de la tempête Gorafi.
Gorafi. C'était pas un Gorafi, c'était une vraie info. Une tempête est passée sur la Manche. Non, simplement quelques petites infos à mesure qu'elles nous parviennent, comme Olivier qui nous parle d'un arbre couché sur la voie du RER A entre Saint-Maur-Champigny et Saint-Maur-le-Parc. Voilà pour ceux qui sont en train de partir ce matin. Sinon, c'est le Mercosur qui vous fait réagir nombreuses au 32-16 et sur le WhatsApp RMC ce matin. Faut remettre les frontières en place, nous dit David, pour éviter l'entrée de mauvais produits alimentaires. Voilà ce que dit David. Jeffrey nous dit maintenant que le Mercosur va être. C'est aux consommateurs de ne pas acheter les produits issus de ce marché de libre-échange. Beaucoup d'appels ainsi à consommer local, à acheter auprès de nos agriculteurs directement pour, une fois qu'il sera en place, éviter justement le traité avec le Mercosur.
Et dans un instant, j'en parle justement avec mon invité dans le face-à-face. C'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Hier, elle est sortie à la rencontre des agriculteurs manifestants devant l'Assemblée nationale. Elle s'est fait huer, chahuter. On revient évidemment sur ce moment-là et puis sur le fait que la voix de la France semble désormais ne plus peser grand-chose. J'interroge donc Yaël Braun-Pivet dans un instant sur RMC et BFM TV. Il est 8h20.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
Il reconnaît des concessions de la part de Bruxelles, mais votera contre le traité de libre-échange avec le Mercosur. Emmanuel Macron a tranché et fait part de sa décision hier soir après une nouvelle journée de mobilisation agricole. Un veto qui n'empêchera pas la ratification du texte par l'Union européenne, mais que le chef de l'État justifie par le rejet politique unanime qu'il suscite en France. Rejet qu'on constate toujours ce matin avec la poursuite du mouvement agricole. Après la coordination rurale hier dans Paris, c'est la Confédération paysanne qui mène actuellement une opération escargot sur le périphérique parisien. Depuis la porte Maillot, ils prennent la direction de l'Arc de Triomphe. Journée de deuil national en Suisse pour rendre hommage aux victimes de l'incendie du bar La Constellation survenu la nuit du Nouvel An à Crans-Montana. 40 morts, dont la moitié de mineurs, 116 blessés. Et on attend beaucoup de monde à la cérémonie organisée dans une ville voisine de la station. Un millier de personnes et des chefs d'État, dont Emmanuel Macron, qui se rendra sur place pour honorer la mémoire des 9 Français qui ont péri dans les flammes. Hasard de calendrier, c'est aujourd'hui que les patrons du bar seront entendus pour la première fois par la justice. Les 2 Français ont rendez-vous ce matin pour être auditionnés. En football, grosse désillusion pour Marseille hier soir. L'OM était tout proche de remporter le trophée des champions au Koweït, son premier depuis 2012. Mais c'était sans compter la performance du PSG qui a inscrit le but du 2 partout. surtout dans les arrêts de jeu avant de s'imposer lors de la séance au tir au but. Et puis à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le début des quarts de finale aujourd'hui. Le Mali affronte le Sénégal à 17h et le Maroc, pays hôte, rencontrera le Cameroun à 20h. Ça a soufflé très très fort cette nuit sur le nord-ouest de la France, conséquence de la tempête Goretti. 380 000 foyers sont privés d'électricité ce matin, dont les deux tiers en Normandie. C'est là que ça a soufflé le plus fort, avec un pic à 213 km/h à Barfleur dans la Manche, en région parisienne. Ça a créé beaucoup de perturbations sur toutes les lignes du RER. Le plus dur est désormais passé. Seuls deux départements restent en vigilance orange au vent, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. On aura aussi beaucoup de pluie aujourd'hui, en particulier au nord de la Seine et dans le sud-ouest, avec des averses orageuses et un risque d'inondation localement. Les températures, elles seront comprises entre 4 et 15 degrés cet après-midi.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité dans le face-à-face, c'est Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Elle a été huée hier par les agriculteurs devant l'Assemblée avant de les recevoir. La France est-elle faible? Elle votera non à l'accord du Mercosur, mais cet accord passera tout de même. Et puis le budget, pendant ce temps-là, les débats reprennent à l'Assemblée. Toujours pas de budget pour la France. Yaël Braun-Pivet dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Yaël Braun-Pivet.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin dans ce studio. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur ce qui s'est passé hier. Il était 11h. Il y avait un certain nombre de manifestants, agriculteurs devant l'Assemblée nationale. Vous êtes sortie à leur rencontre et voilà ce qui s'est passé.
Merci de venir nous rencontrer.
C'est pas possible ça.
Désolé là, franchement je.
Vous avez été hué, des cris de démission, vous avez même pris, semble-t-il, un projectile, peut-être même un crachat.
Non, une poignée de neige.
C'est pas bien grave. Vous avez le sourire ce matin?
Mais bien sûr, parce que, vous savez, quand on fait de la politique, on peut pas avoir peur des gens qu'on représente. On peut pas avoir peur des Français et des citoyens. Donc les citoyens viennent manifester devant l'Assemblée nationale, c'est qu'ils ont des choses à dire à la représentation nationale. Il est normal que la présidente que je suis aille à leur rencontre et essaye de discuter avec eux.
Vous imaginez?
Même quand ils sont énervés, même quand ils sont en colère. Mais bien sûr, vous savez, moi, ça fait plusieurs années que je fais de la politique. J'ai vécu les manifestations lors de la réforme des retraites avec des casserolades. Les préfets me disaient, n'y allez pas, annulez votre déplacement. Je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours, toujours été à la rencontre des Français, à la rencontre des syndicalistes. C'est comme ça que je conçois la vie politique. On ne peut pas avoir peur du dialogue, de la confrontation, parfois désagréable. Mais c'est pas grave, c'est ainsi. Si on ne veut pas cette confrontation, on fait pas de politique, on fait autre chose.
Donc pour vous, pas de regret d'y avoir été. Vous les avez ensuite reçus posément dans votre bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit?
Alors moi, j'ai reçu l'ensemble des organisations syndicales, les unes après les autres. C'est des organisations avec lesquelles je suis en contact régulièrement. Je vais aussi, quand je me déplace sur le territoire national, beaucoup à la rencontre de nos agriculteurs, dans des exploitations, etc. Donc c'est une préoccupation que j'ai depuis longtemps. Donc ce dialogue syndical, il faut l'avoir. Et après, il faut les écouter. Et c'est un peu, et c'est ça qui est un petit peu, finalement, perturbant. C'est que c'est toujours les mêmes revendications qui reviennent. Ils ont besoin de simplification, trop de normes, trop de complexité administrative. Ils ont des boulets aux pieds, ils estiment que la concurrence n'est pas loyale entre ce qu'ils font et les autres producteurs à l'international. Ils doivent faire face à des crises sanitaires, crises climatiques, et ils ont le sentiment de ne pas être suffisamment armés. Pour autant, ils aiment leur métier. Nous aimons nos agriculteurs, nous aimons notre agriculture, c'est ce qui définit notre pays, on le sait tous, on y est très attachés.
Écoutez, c'est bien.
Et donc il faut engager un certain nombre d'actions, continuer parce que ça s'inscrit
mais
dans un certain nombre d'actions qu'on a déjà réalisées.
Yaël Braun-Pivet, vous dites, ce qui est terrible, c'est que c'est toujours les mêmes revendications. Oui. Parce que les choses n'ont pas changé.
Alors, elles ont changé, mais à chaque fois, on ne va pas assez loin et ça ne va pas assez vite. Je prends un exemple, les questions de simplification. Ça fait des mois que nos préfets ont travaillé avec les agriculteurs main dans la main pour simplifier les procédures. Mais il faut continuer, on n'est pas au bout du chemin. Et ils ont le sentiment que quand on remet une disposition, eh bien on recomplexifie à nouveau et que c'est une espèce de va-et-vient qui s'installe. Et donc il faut qu'on ait un cap clair de simplification. Et c'est ce que je crois a engagé le gouvernement actuellement.
Sauf que l'une des revendications de ces agriculteurs, c'est le Mercosur, journée décisive aujourd'hui à Bruxelles. Ouais. La France a annoncé qu'elle voterait non et ça ne changera rien.
Bah écoutez, on est 27, hein, c'est une union et donc il n'y a pas de droit de veto comme au Conseil de sécurité des Nations Unies et donc il fallait convaincre des partenaires. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour ce faire et nous avons réussi en décembre à convaincre les Italiens et à avoir ainsi une minorité de blocage. Ça n'a pas perduré, les Italiens ayant obtenu d'autres garanties. Et donc, il faut continuer à se battre parce que le combat n'est pas fini. Il y a le Parlement européen qui va s'exprimer, la Cour de justice de l'Union européenne qui peut être saisie. Et donc, il y a encore des procédures. Et puis, il y a toujours et encore ce combat pour renforcer les garanties. Les agriculteurs, nous en avons parlé, ces fameuses clauses de sauvegarde, ces fameuses clauses miroirs, et surtout ces contrôles pour ne pas, en fait, avoir posé des actes, posé des paroles, posé des principes de concurrence loyale, et finalement, faire que ça ne soit pas effectif.
La question de la réalité, effectivement, de ces contrôles, on va y revenir. Mais vous n'êtes pas triste quand même de vous dire que hier on entendait par exemple la ministre de l'Agriculture sur notre antenne qui disait c'est un non puissant de la France. Mais c'est un non puissant qui ne pèse plus rien.
Alors je ne suis pas d'accord, il ne pèse pas plus rien ce non. Déjà, il a été exprimé très puissamment et par le gouvernement, mais aussi par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, à travers plusieurs votes, donc de façon très transpartisane, a exprimé son opposition très ferme au Mercosur. Mais cette opposition, cette position de la France, elle a permis justement d'avoir ces clauses de sauvegarde, elle a permis justement d'avoir ces clauses miroirs, elle a permis justement de pouvoir renforcer les contrôles au niveau européen.
Mais pas donc suffisamment, ça n'est pas rien. Puisque le Premier ministre lui-même dit que le compte n'y est pas.
Mais c'est la raison pour laquelle nous nous y opposons, et c'est la raison pour laquelle nous continuons à mener le combat et nous allons être très constants en la matière.
Il y a un mot qui m'a frappé dans les paroles d'Annie Genevard, elle dit que c'est un symbole fort. Et moi je vais vous dire, c'est ce qui m'a le plus désolée, c'est qu'au fond, nous ne sommes plus que symboliques.
C'est pas vrai, je suis pas d'accord. La France est attendu, la France a une parole forte, la France a une place importante en Europe. À nous, après, de mener les combats. Nous
en
sommes
novembre
dans un
dernier,
collectif.
Vous-même, présidente de l'Assemblée nationale, vous l'avez constaté, les députés français ont voté à la quasi-unanimité contre le Mercosur.
Mais c'est ce qui permet au gouvernement aujourd'hui d'avoir une assise très démocratique pour pouvoir continuer à s'opposer à cet accord qui, aujourd'hui, ne nous satisfait pas pleinement. Le compte n'y est pas. Nous ne sommes pas contre les accords de libre-échange, mais pour autant, il faut continuer à nous battre pour préserver nos intérêts, préserver nos agriculteurs.
Vous ne vous dites pas la France est faible.
Mais pas du tout. Si vous considérez que vous êtes faible, vous ne pouvez pas aller vous battre et vous vous battez avec les mains dans le dos. Nous pensons que la France est puissante. Nous pensons que la voix de la France compte à nous, hommes et femmes politiques, de la porter haut. Mais nos agriculteurs, en cela, nous aident. Parce que, justement, ils nous montrent qu'ils se mobilisent de façon très unitaire pour défendre l'agriculture. Et nous sommes aussi leur porte-parole. Nous sommes leurs représentants.
Vous soutenez cette mobilisation, et même si elle doit durer?
Mais je soutiens la mobilisation des agriculteurs et je souhaite aussi que nous puissions leur apporter des réponses. Tout n'est pas dans le Mercosur, c'est ce que je vous disais au
départ.
Oui,
vous parliez de la question de la simplification, la question de la concurrence déloyale qui n'est pas qu'avec des pays hors de l'Union européenne, hein, c'est aussi nos propres voisins, c'est l'Espagne, c'est l'Allemagne qui ont des règles moins dures.
C'est l'adaptation au changement climatique, les questions de l'eau, etc.
Est-ce que nous, la France, on ne s'est pas trompé en étant trop zélés sur un certain nombre de normes, plus en tout cas que nos voisins?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut... On a créé cette distorsion. Parfois, on a créé à travers ce qu'on appelle des surtranspositions. Et donc, on a été peut-être un peu plus loin qu'on aurait dû. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument remettre un certain nombre de choses à plat pour créer les conditions d'exercice du métier d'agriculteur qui soient satisfaisantes. Et j'ai oublié quelque chose qui finalement est fondamental parce que c'est ce qui vient en premier dans la liste. Un revenu digne. un agriculteur. Sa revendication aujourd'hui principale, telle qu'elle a été exprimée encore hier dans mon bureau, c'est de pouvoir gagner dignement sa vie
et
sa vie
produire.
De son métier, pouvoir produire en ayant une stabilité financière qui lui permette de regarder l'avenir avec sérénité, de pouvoir nourrir sa famille, ses enfants,
ça
de pouvoir
se projeter. Ça a des conséquences aussi en termes de bras de fer politique. Alors du côté de Marine Le Pen, elle demande à ce que l'on brandisse la menace d'une suspension de la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut qu'on rentre dans ce bras de fer ?
Je crois que ça n'est pas la bonne méthode parce que de l'autre côté, nous avons aussi la politique agricole commune, la fameuse PAC, dont la France est un des principaux bénéficiaires. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à discuter, mais il ne faut pas rentrer dans cette radicalité-là. Je pense qu'elle serait parfaitement contre-productive.
Les Républicains, par la voix de Bruno Retailleau, ont évoqué aussi la possibilité de censurer le gouvernement sur la question du Mercosur.
J'ai vu effectivement qu'il y aurait peut-être une motion de censure, alors pas à l'initiative des Républicains, mais à l'initiative
du Rassemblement national.
On verra quand elle sera déposée. À l'heure où je vous parle, elle n'est pas déposée. On verra aussi quels sont les arguments et comment cela est posé. Et puis le débat aura lieu, si elle est déposée rapidement, le débat aura lieu la semaine prochaine à l'Assemblée nationale.
La méthode des agriculteurs, vous avez dit que vous souteniez la mobilisation. On voit sur des images en direct, pour ceux qui nous regardent sur BFM TV, je les commente pour RMC, ce sont des agriculteurs sur le périphérique. Ils continuent donc leur mobilisation, quitte à bloquer. Est-ce que cet aspect-là, est-ce que la méthode... vous la soutenez ?
Non, je soutiens pas les blocages, je soutiens pas l'entrave à la liberté d'aller et venir des Français, je soutiens pas les dégradations. J'ai des parlementaires qui encore hier ont vu leur permanence dégradée. Et donc je ne soutiens pas ces actions qui visent à entraver les Français dans leur
liberté.
Vous
leur demandez de rentrer chez eux.
Donc moi je souhaite qu'on arrive à avoir ce dialogue. Ce qui est important, c'est qu'on discute et qu'on arrive. Ils savent que nous sommes à leur côté. Donc il faut qu'on avance main dans la main pour pouvoir gagner ce combat ensemble.
Je le précise, ces opérations escargots, donc des tracteurs, des agriculteurs, ça se passe sur le périphérique parisien en ce moment même et on continue à vous informer sur BFM TV et RMC. Le budget, pendant ce temps-là, la France n'a toujours pas de budget. Les discussions ont repris cette semaine et ça pourrait vraisemblablement se terminer assez vite par un 49-3. Est-ce que vous le comprenez que finalement on en arrive là ?
Je trouve cela dommage et je trouve qu'il y a encore aujourd'hui une autre voie de passage, la voie du débat parlementaire. Vous l'avez rappelé, le débat a recommencé. Donc on est en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale en commission. La semaine prochaine, dans l'hémicycle, mardi, et je présiderai mardi après-midi, l'ouverture des débats sur cette loi de finances. Moi je pense et j'invite tout le monde à réussir à converger parce qu'on ne peut pas vouloir à la fois, quand on fait partie des oppositions, l'abandon du 49-3, donc l'abandon d'un passage en force du gouvernement devant le Parlement, et puis après ne pas aller jusqu'au bout du débat et finalement être capable de l'assumer et de voter soit pour, soit au moins de s'abstenir. Il faut être cohérent. Donc moi, j'invite tout le monde.
Vous y croyez encore ?
Mais moi, j'y crois toujours. Et je me rappelle, j'étais sur un plateau un peu avant le vote du PLFSS et on me disait, mais Madame la Présidente, c'est un peu la méthode Coué, vous croyez au vote, mais en fait, vraiment, c'est pas réaliste.
Et c'est passé.
Et c'est passé. Donc moi, j'y crois toujours. C'est l'essence de mon travail en ce moment.
En fait, le mot débat, vous l'aurez prononcé de très très nombreuses fois depuis le début de cette interview.
Mais je le prononce depuis 2022, depuis que je préside l'Assemblée nationale. Moi, j'y crois à cette Assemblée, parfois un peu contre vents et marées, et j'y crois parce que elle est le résultat du vote des Français. Et moi, mon job, c'est de faire en sorte qu'elle fonctionne et qu'elle produise ce qu'elle doit produire. Et aujourd'hui, ce qu'elle doit produire, c'est un budget pour la France. Et donc, continuons à y travailler par le débat. C'est le lieu.
Vous trouvez ça dommage, vous regrettez, vous espérez encore qu'on puisse s'en passer, mais si toutefois le 49-3 était nécessaire, alors il ne faut pas s'en priver ?
Moi, je n'y souscris pas. Je suis présidente de l'Assemblée nationale et donc je ne souscris pas au 49-3. Je ne souscris pas à ce type d'outil dans les circonstances actuelles à partir du moment où le Premier ministre et le gouvernement ont dit qu'ils y renonçaient. Je pense que la parole publique est importante. La parole publique doit être crédible. Et lorsque l'on dit une chose, on ne peut pas faire l'inverse quelques semaines ou quelques mois plus tard. En tout cas, moi, ça me dérange profondément sur le plan démocratique. Mais la contrepartie de cela, c'est que chacun doit faire des efforts. Chacun doit faire des efforts pour débattre, chacun doit faire des efforts pour aller au compromis.
Mais si, pas de 49.3, ça peut durer des semaines.
Mais non, parce que les débats vont avoir lieu et vont s'enchaîner à l'Assemblée nationale et il va y avoir des votes dans les jours qui viennent. Donc ça ne peut pas durer des semaines, mais j'invite tout le monde à être très conscient de cette situation et à faire continuer à faire des pas les uns vers les autres pour que nous puissions avoir un budget par le vote.
Alors, on n'utilise pas le 49.3 dans votre scénario, on continue à débattre, on vote, et si le budget n'est pas adopté, on fait quoi ?
Eh bien, ça, c'est une impasse. Et donc, on continue. Si le budget n'est pas adopté, on continue sous le régime de la loi spéciale que nous avons. Ça n'est pas du tout satisfaisant. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous ayons un budget.
Donc, si je comprends bien, ça n'est pas satisfaisant.
Moi, j'invite tout le monde à faire le maximum d'efforts. Nous sommes aujourd'hui à un moment où les débats n'ont pas repris, ni en commission, ni dans l'hémicycle. Donc, ne jouons pas d'ores et déjà la fin de la partie. Aujourd'hui, la partie qui s'ouvre, c'est une partie de débat parlementaire. Donc, mettons toutes nos forces dans ce débat parlementaire et j'espère que nous réussirons à trouver le chemin.
Yael Braun-Pivet, ce qui est important, c'est que vous dites ce matin que vous ne voulez pas de 49.3. Vous dites qu'ils se sont engagés à ne pas l'utiliser. Il ne faut donc pas l'utiliser. Que pour autant, effectivement, les ordonnances seraient une impasse, qu'il faut donc continuer jusqu'au bout. Mais sur quel texte ? Par exemple, un des points de blocage, c'est la question, il faut encore trouver entre 12 et 15 milliards, c'est la question de la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés. Vous, là-dessus, vous êtes OK ? Vous dites, on le fait ?
Moi, j'ai toujours été favorable au fait qu'il fallait qu'on ait un budget qui soit équitable et que l'effort soit justement partagé et qu'il y ait donc une contribution des plus aisés sur les personnes privées et des sociétés. Ça ne me pose aucune difficulté. Il faut trouver le bon niveau de prélèvement pour que chacun ait le sentiment et la conviction que l'effort est juste.
Ça ne vous pose aucune difficulté ? Non. Ça vous paraît pas contraire à ce qu'était l'engagement du macronisme ?
Mais pas du tout, parce que l'engagement du macronisme, c'était promouvoir une politique de l'offre, de promouvoir une action, une activité économique qui se redynamise, une réindustrialisation de notre pays, de la création d'emplois, la baisse des impôts de production. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, nous sommes dans une situation compliquée. Vous savez quoi ? Il est beaucoup plus dommageable pour nos entreprises, pour notre économie, de ne pas avoir de budget, d'être dans une situation de blocage où ils n'ont pas de perspective. Vous savez, lorsque nous n'avons pas eu de budget l'année dernière, c'est quasiment 50% des investissements, que ce soit d'entreprises étrangères ou d'entreprises françaises, qui ont été gelés, reportés, etc. On ne peut pas se payer ce luxe-là. Et c'est la raison pour laquelle aussi, il est important de trouver un vrai compromis sur le budget qui nous permette d'avancer, qui nous permette de nous projeter et qui nous permette de pouvoir nous occuper des autres sujets de préoccupation des Français.
Ça va servir à quoi cette année 2026?
Nous avons des lois probablement agricoles dont il faut que nous débattions à nouveau. Nous avons l'importante loi sur la fin de vie. Vous savez que c'est un combat que je mène depuis des années pour que nous puissions avoir un débat parlementaire suivi d'un vote sur ce texte pour ouvrir ce nouveau droit pour les Français. Moi, je souhaite qu'il soit ouvert en 2026. Le débat va commencer la semaine prochaine au Sénat et ce texte reviendra en février à l'Assemblée nationale. Nous avons un texte important sur les fraudes sociales, les fraudes fiscales qui est prêt,
donc
qui attend d'être examiné dans l'hémicycle. Nous avons un texte sur la politique pénale de notre pays, sur l'accord, sur les collectivités. Donc oui, cette année, mais c'est pas, elle peut être utile, elle doit être utile. C'est notre mission. Les Français nous ont pas confié un mandat de 3 ans et demi. Ils nous ont confié un mandat de 5 ans. Et donc nous devons travailler jusqu'au bout.
J'ai envie de vous dire, ils vous ont confié un mandat de 5 ans, et puis il y avait eu les 5 ans précédents. Est-ce que pour vous, le macronisme existe encore ? Est-ce que ça existe encore ?
Bah écoutez, je crois que je suis devant vous et que j'existe.
Comment vous l'incarnez ?
J'agis.
Qu'est-ce
et que vous, on est très nombreux.
C'est quoi
à agir.
Le macronisme ?
Le macronisme, c'est une action politique qui croit dans le dépassement des clivages. Moi, je suis peut-être la dernière à y croire. Moi, j'y crois. J'y crois au rassemblement des énergies. Je crois au rassemblement des convictions. Je crois au travail avec des gens qui ne sont pas complètement d'accord avec moi, mais qui partagent la même vision, les mêmes valeurs et qui ont envie de s'asseoir à la même table que moi pour travailler
mais
dans l'intérêt des Français.
Résultat.
Ça, c'est le macronisme. Le macronisme, c'est le progressisme. C'est une vision européenne. C'est justement une haute idée de la France. Moi, j'entends plein de d'hommes et de femmes politiques qui pensent que la France, elle est en déclin, que la France s'effondre. Mais c'est pas cette France-là, ni que je vois, mais ni que j'aime, et ni cette France dont les Français me parlent.
Je trouve ça très séduisant de se dire, moi j'y crois encore à cette France puissante. Évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de se dire la même chose. Mais vous comprenez bien qu'on se heurte au mur du réel.
Ouais. Et justement, en fait, moi, je crois aujourd'hui que la description qu'on fait du réel, parfois, est en fait complètement erronée.
Moi, il y a un sentiment que ça se dégrade, alors qu'en réalité, ça ne se dégrade pas.
Il y a des choses qui se dégradent, évidemment. Il ne faut pas être naïf, mais tout ne va pas mal dans notre pays. Tout ne va pas mal dans notre pays. Vous savez, moi, sur le plan de la santé, on dit que ça va pas bien. Et c'est vrai, il y a des déserts médicaux, il y a un énorme problème d'accès aux soins. Nos compatriotes nous le disent partout où on va sur le territoire de notre pays. Pour autant, on a la meilleure recherche du monde, on a des chercheurs, on a des prix Nobel. Et donc, soyons aussi optimistes, ayons confiance dans les forces de notre pays, soyons conscients de nos faiblesses pour pouvoir y remédier, mais croyons à la grandeur et à la hauteur de la France.
Merci Yael Braun-Pivet d'avoir répondu à mes questions ce matin, président de l'Assemblée nationale. Vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Et dans un instant, la semaine face à Canteloup, blocage des agriculteurs, neige. Nicolas Canteloup revient sur une semaine riche en actualités.
RMC, une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, était dans le face-à-face et il est resté face à Canteloup. Rebonjour Alexandre Bompard.
Rebonjour.
Vous avez pointé certains dysfonctionnements de notre pays. Quelqu'un qui est en phase avec votre analyse tenait à nous dire un petit mot, c'est Jean-Louis Borloo. Bonjour Jean-Louis Borloo.
Bonjour. J'ai écouté Alexandre Bompard. Il a raison sur les dysfonctionnements de notre pays, dysfonctionnements de partout. Et il est bien passé pour savoir, parce que lui-même, bon, on peut le dire, hein, c'est pas un vrai modèle de cohérence. Hein. Bon, alors si tu veux, ça part bien au départ. T'as vu son parcours au départ. Il fait, tu vois, élève brillant, étude exceptionnelle. Il fait l'ENA, quatrième à l'ENA. C'est formidable, la voie royale, l'inspection des finances. Et puis après, ça part en caca. Il annonce à ses parents qu'il veut aller dans le sport. Là, il se retrouve à Canal Plus, série des sports. Bon, encore, c'est de la télé, c'est prestigieux, tu vois, ça brille un peu. Puis après, ce qu'on il part à la radio.
Ah bah oui.
Alors que tout le monde le sait, quand tu bosses à la radio, que t'as qu'un seul rêve, c'est de partir à la télé. Regarde Texer, il rêve de faire la télé. Non, lui, il fait le chemin à l'envers. Quelle bouche le pique, on sait pas. Il va bosser chez Darty. Un petit gilet rouge, je sais pas. Après, il change, il me fait des mélanges. Il part à la Fnac, le petit gilet jaune. Alors que les mélanges, on sait, moi je te le dis, je sais, tu mélanges le rouge, le jaune, c'est pas bon. Et puis, il te fusionne tout ça, t'y comprends que dalle. Il vend des machines à laver à la Fnac. Après, il vend des bouquins de la papeterie chez Darty. Il fusionne tout ça. Bon, comprends que dalle, c'est un bordel. Et là, t'as Carrefour, il dit c'est qui ce gonce qui vend tout et n'importe quoi, qui est capable. Il est fait pour. C'est notre profil, il vient chez nous. Donc, il finit à Carrefour, mais ça, c'est la dégringolade, il va finir à foire fouille.
On retrouve tout de suite Pascal Praud, tiens, pour son édito de rentrée.
Oui, bonjour. Bonjour ma chère Apolline, bonjour à tous. Bonne année, surtout la santé, sauf au président Sarkozy. Fini les fêtes de Noël et du Nouvel An, ces moments où l'on se retrouve en famille à partager une grippe, une gastro-entérite.
Voilà.
Vous connaissez ça, 2026 commence à peine et on ne reconnaît plus notre monde, tout fout le camp. L'insécurité de retour avec le cambriolage de la boutique du pâtissier de luxe Cédric Grelé. Le butin s'élève à plus de 20 000 euros. En effet, les cambrioleurs ont dérobé pas moins de 3 tartes aux pommes et 2 éclairs au chocolat. Seront-ils plus faciles à écouler que les bijoux du Louvre? Seul Laure Bécaud, notre désormais célèbre procureur de la République, saura nous rassurer.
Comment va-t-elle?
Alors, concernant les 2 éclairs au chocolat... Et les trois tartes aux pommes, pour des raisons de confidentialité, vous comprendrez que je ne peux pas révéler...
Oui, bien écoutez, ça tombe bien parce qu'on s'en fout, cher Laure.
La mobilisation agricole qui continue malgré les interdictions et les conditions climatiques, on retrouve tout de suite le leader agricole, Jérôme Bail.
Oui, écoutez, madame, bon, je salue monsieur Marshall, c'est le monde à l'envers. Le but, c'était quand même de bloquer les routes avec nos tracteurs. Et avec cette putain de neige, maintenant, c'est les voitures qui nous bloquent. C'est les voitures qui nous piquent notre opération escargot à nous. Et on est baisés, voilà, moi je le dis. Pareil, il y avait les tronçons d'autoroute. Les tronçons d'autoroute, Mme Balherbe, nous, on voulait bloquer la circulation en faisant tout brûler, les pneus, les palettes, le fouet, la paille. Mais en fait, avec cette putain de neige, c'est sur nos tronçons que ça roule le mieux maintenant, parce que puis en brûlant tout, on a tout fait fondre. Donc je vous dis, on est baisé de partout, donc on rentre à la maison. Gisèle, charge-la 3 tonnes de paille. Non, à la main, Gisèle, putain.
Analyser l'intervention qui a nommé des
filles après
l'après-midi. On accueille notre militaire maison, Vincent Moscato.
Oh, RMC, le super Moscato Show.
Putain, c'est dur ce matin, retour mastique. Compliqué ce matin, je suis fracassé. Tel que tu me vois, j'ai plus. Tu vois, je me réveille, tu vois, je me réveille juste du réveillon. J'entends de partout Maduro, putain, je crois que c'était un joueur des îles Tonga, moi. Non. Apparemment, c'est le carrément le président des îles du Venezuela. Voilà, donc le film d'action, les Américains, ils débarquent, sans des avions de chasse, sans hélicoptère, et ils font pas le voyage pour rien. Tu sais, ils sont pas venus juste pour boire l'eau des pattes. Tu vois, les Américains, tranquilles, ils rentrent dans le pays sans sonner à la porte. Tu vois, tranquille, ils arrivent. Ils s'essuient carrément les pieds sur la moustache de Maduro. T'as vu la moustache du gosse? La moustache, putain, un scratch de 3 mètres d'épaisseur, gros. Un balai brosse qui aurait couché avec un sourcil de Le Cornu. Sous les narines, il s'est collé un purée mort, gros.
Donald Trump a déclaré qu'il s'occuperait désormais du pétrole vénézuélien.
Tranquille, gosse. Comme à la maison, il prend le pétrole, il se sert. Tu vois, c'est le costaud de la récré qui te pète la gueule pour manger ton Kinder Bueno, tu vois. Trump, c'est sa manière à lui de faire les courses. Il va faire des forages de pétrole partout. Ça va perforer dans tous les sens. Tu vois, Trump, c'est Rocco Siffredi bourré de Viagra qu'on lâche dans du fabrique de gruyère, quoi. Il va te faire plus de trous que de gruyère, quoi. De quel fromage. Attention, je préviens, la bête est lâchée. Elle est blanche, la bête. Il va provoquer lui aussi.
Merci Nicolas Canteloup. On vous retrouve évidemment lundi 8h50 et à tout moment en podcast sur RMC. Dans un instant, les grandes gueules. Quel est le programme, Alain Marchal?
Eh bien, avec nos GG, on reparlera de ces événements climatiques quand même. C'est-à-dire qu'on passe de la neige à la tempête et on se retrouve toujours avec les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes sur les lignes SNCF, les mêmes problèmes avec les lignes électriques. Alors certes, ce sont des événements un peu hors normes, mais on a toujours l'impression qu'on tire pas suffisamment les leçons. Alors si vous avez été dans la galère, c'est le moment de venir témoigner au 32-16. Le Mercosur, la France dit non. Est-ce qu'il a raison de dire non, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il est à fond dans la défense des agriculteurs? Vous venez en parler avec nous. On parlera aussi de la natalité qui est au plus bas en 2025. Elle ne cesse de décroître en France. Alors pour relancer la natalité, est-ce qu'il faut donner une allocation importante dès le premier enfant? Voilà quelques-uns de nos sujets de discussion avec Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, Sandrine Pégan, l'avocate, et le docteur Jérôme Marty qui nous parlera de la grève des praticiens aussi.